Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole des vignerons meurtriers nous rappelle plusieurs choses pour notre vie chrétienne. Premièrement, si l'on applique plus à la lettre la parabole du Seigneur, il s'agit de la maison d'Israël, comme le rappelle Isaïe dans la première lecture, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël, il la chérit. Est-ce que Dieu pouvait faire plus qu'il n'a fait pour son peuple? Et là, Jésus reprend les paroles, pratiquement mot pour mot, du prophète Isaïe. Et ses auditeurs ne pouvaient pas ne pas faire la comparaison avec le prophète. En même temps, il rappelle que les dons de Dieu nous engagent. Un théologien allemand Balthazar, rappelez que ce n'est pas tant l'enfer qui doit nous causer l'effroi, sinon l'amour de Dieu qui donne une gravité à notre vie. L'amour de Dieu nous engage parce que le Seigneur, en nous donnant quelque chose, se donne lui-même. Il ne peut pas donner autre chose que lui-même. Et ces dons de Dieu sont sans repentance. Mais ces dons de Dieu appellent aussi en échange, comme en retour, une confiance et un amour. Au fond, cette parabole des vignerons meurtriers, c'est voir le don de Dieu comme une menace. Et c'est précisément la définition de l'enfer. L'enfer, c'est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Ce même amour de Dieu qui est vécu comme une béatitude pour les saints. L'enfer, comme le paradis, est en Dieu parce que hors dehors de Dieu, évidemment, il n'y a rien. Mais comment voyons-nous les dons de Dieu? C'est ça la question. Comment percevons-nous ces dons de Dieu? Est-ce que nous les approprions comme quelque chose en dehors d'une dépendance amoureuse du Seigneur, et comme ces vignerons, il dit « voilà l'héritier, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ou au contraire, avons-nous un regard plein de bienveillance et d'action de grâce sur ce que nous avons reçu? Que n'as-tu que tu n'aies reçu, nous a dit le grand saint Paul, « oui, sans moi vous ne pouvez rien faire ». Au fond, la question est de savoir si notre vie, nous la voyons avec un regard de bienveillance, d'action de grâce, de confiance, ou au contraire de menace et quelque part aussi de défensive par rapport à Dieu qui serait celui qui met en jeu notre liberté. Alors on voit bien que le Seigneur, là, nous rappelle à l'ordre quelque part et nous dit les dons qui ont été faits à Israël, puisqu'il parle à Jérusalem. Vous verrez dans la Bible, on est au Matthieu au chapitre 21, il est déjà à Jérusalem, comme aussi Isaïe parlait aux habitants de Jérusalem. Eh bien, ces dons-là, ils vont être donnés à d'autres. Quelque part, l'Église accomplit la mission qu'Israël avait d'annoncer l'amour de Dieu à toute la création. Accomplit et en même temps prolonge et donne une ampleur absolument extraordinaire. Donc c'est très beau de voir cette parabole des vignerons homicides, des vignerons meurtriers, et nous pouvons nous-mêmes, à notre tour, nous poser la question, au fond, comment est-ce que les dons de Dieu, d'abord identifier les dons de Dieu, là il s'agit d'une vigne, donc c'est quelque chose de bien identifiable dans la parabole. Ces dons de Dieu, quels sont-ils? Quels sont les talents que nous avons reçus? Quelles sont les grâces qui nous ont été données et que nous avons reçues de la part du Seigneur, que ce soit des grâces spirituelles ou des grâces naturelles? Naturellement, il y a des personnes qui sont douées pour le bricolage, pour créer une bonne ambiance. Naturellement, il y a des personnes qui sont douées pour la relation, pour que sais-je, ou pour les sciences. Mais aussi au plan spirituel, il y a des personnes qui ont un talent, que ce soit dans la prédication, dans la prière, dans l'annonce de la parole de Dieu. Ces talents nous engagent. Ces talents nous engagent. Et ce qui est le plus opposé au talent, eh bien, c'est la peur. Au fond, qu'est-ce qui habite ces vignerons, c'est la peur. Il y a en eux une peur du maître de la vigne. Et c'est bien aussi que nous puissions identifier dans notre cœur cette peur de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu, qui voit Dieu comme une menace et non pas comme un père qui ferait tout pour nous et qui, comme le dit le prophète Isaïe, sarcle, entoure la vigne, met une tour de garde, met un mur pour la protéger des ennemis. Et c'est très touchant cette comparaison, justement, pour voir cet amour prévenant du Seigneur. Mais nous n'y croyons pas. Au fond, cette conversion à l'amour de Dieu, c'est une conversion de tous les instants. Parce que nous avons, comme conséquence du péché originel, cette petite voix qui nous dit à l'intérieur de nous-mêmes, ne te laisse pas avoir. Si tu te donnes complètement à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Qu'est-ce qui va te demander? Qu'est-ce qui va te prendre? Alors que, au contraire, face au soupçon qui peut nous habiter face au Seigneur, c'est cet amour qui est manifesté par le prophète Isaïe, l'amour de prévenance et de bienveillance. On voit bien qu'au fond, cette parabole, elle nous engage pour redécouvrir les dons de Dieu comme de vrais dons, mais des dons que l'on reçoit, non pas des dons que nous nous serions donnés à nous-mêmes. Dieu qui nous donne bien plus que nous n'osons demander, mais faut-il encore que nous ayons cette confiance en lui? Le don de Dieu par excellence, c'est Jésus. C'est Jésus, et on voit bien la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, Jésus vu comme une menace par le système en place des pharisiens, particulièrement le parti des pharisiens. Jésus qui ensuite, dans le courant de l'évangile de saint Matthieu, parlera de ceux qui sont invités aux noces et de ceux qui n'ont pas répondu. Nous aussi, nous nous sentons comme concernés parce que nous avons la connaissance du Christ, nous avons reçu cette parole de Dieu, nous avons reçu à la fois les sacrements, cette communion au corps et au sang du Christ de dimanche en dimanche. Cela nous engage. Cela nous engage à porter du fruit et à redonner ce fruit en action de grâce auprès du Seigneur dans le remerciement. Au fond, c'est ça. Quelle est la place dans notre vie de la louange? Quelle est la place de notre vie de l'action de grâce? Et on voit bien qu'il peut y avoir, au contraire, une manière de vivre en disant « tout m'est dû » et donc je rentre dans une râlerie permanente et une critique permanente parce que je n'ai pas ce qui m'est dû dès qu'il y a quelque chose qui résiste à mon désir, ou alors tout est don et donc je suis dans l'action de grâce et dans la louange. Et on sait très bien que les deux, en nous-mêmes, se confrontent et parfois nous rendent la vie difficile. Alors demandons au fond la clé pour voir la vie comme un don et récupérer et revoir les dons de Dieu dans l'admiration et l'émerveillement. La clé, c'est l'humilité. L'humilité qui va permettre justement à celui qui a reçu de ne pas se sentir menacé par le don qu'il a reçu, mais au contraire, de faire porter du fruit et une fécondité, puisqu'il s'agit de vendanges, une fécondité aussi, une fécondité bien, bien plus grande que celle que l'on aurait pu avoir sans la présence de Dieu dans notre vie. Alors demandons à Jésus cette grâce de l'humilité, demandons à Jésus cette grâce de la louange pour pouvoir témoigner dans notre vie, dans un monde qui de plus en plus met Dieu de côté, voit Dieu comme une menace. Et on le voit avec certaines conceptions de la laïcité, par exemple. C'est une menace par rapport à la liberté humaine. Nous nous disons non, Dieu n'est pas une menace. Au contraire, il ne sait que faire pour nous rendre la vie à la fois plus forte, plus intense. Il ne sait que faire en nous donnant son propre Fils pour nous donner aussi accès au Père. Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles et invoquons et supplions les anges gardiens que nous fêtons aujourd'hui, qui nous donnent cette action de grâce, eux qui sont devant la face du Père, pour le contempler et l'adorer. Amen.